Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne que le peuple que tu t'es formé publie tes louanges. Tu es digne, Seigneur, que ceux que tu as rachetés des ténèbres, Seigneur, à ton admirable lumière, tes célèbres. Tu es digne de recevoir des hommes que tu as formés, que tu as façonnés. La louange, la gloire, l'exaltation, car il n'y a pas un autre qui soit digne comme toi. Seigneur mon Dieu, il n'y a que toi qui sois digne d'être célébré. Il n'y a que toi qui sois digne d'être exalté. Seigneur, les hommes ont été chantés, les hommes ont été loués, mais personne n'a été chanté comme toi, personne n'a été loué comme toi. Les hommes sont passés par nos vies, les hommes, Seigneur, ont été en contact avec nous, mais toi seul as pu nous changer, toi seul as pu nous transformer, toi seul as pu nous façonner. Nous sommes devenus un peuple que tu as façonné, nous sommes devenus un peuple que tu as transformé. C'est pourquoi nous disons que tu es digne. C'est pourquoi nous disons que tu es digne de recevoir de nous la reconnaissance, de recevoir de nous toute la gratitude. Ce que tu as fait de nous est merveilleux. Ce que tu as fait de nous est visible par tous. Ce que tu as fait de nous, oh Dieu, t'as recommandé au monde. Tu es digne, Seigneur, mon Dieu. Ce matin, Seigneur, nos regards tournés vers toi, nos cœurs, Seigneur, remplis d'admiration de ta sainte personne, nous contemplons ta grandeur, nous contemplons ta gloire, nous contemplons ta beauté, ô Dieu, et nous nous sentons infinis, nous nous sentons, Dieu, diminués, nous ne sentons rien devant toi, car il n'y a qu'un seul nom qui mérite d'être élevé. C'est ton nom, Jésus, il n'y en a pas deux, il n'y a que ton nom, Seigneur mon Dieu. Et nous sommes venus admirer ta majesté, nous sommes venus contempler ta magnificence. Comme toi, il n'y en a point, comme toi, il n'y en aura jamais. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle, c'est toi qui console les cœurs affligés, c'est toi qui relève les vies qui sont, oh Dieu, couchées dans la ruine. C'est toi qui ranime l'âme des morts, c'est toi, oh Dieu, qui ranime l'âme des morts, c'est toi qui ranime l'âme des morts. Peu importe l'état dans lequel nous pouvons nous trouver, c'est devant toi que nous rencontrons la vie Zoé qui vient, oh Dieu, faire vivre tout en nous. Nous bénissons ton nom ce matin, alors que tu nous as ouvert les portes de ta maison, tu nous as ouvert les portes de ta présence. Nous proclamons ta majesté, nous bénissons ton Saint-Nom, toi qui es digne, toi qui es digne, digne est l'agneau. Digne es-tu, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. C'est toi qui nous as donné d'être ce que nous sommes. Et nous te devons tout, oh Dieu. Nous te devons tout, alors tout. Même nos acclamations sont pour toi, Seigneur. Même nos cris de joie sont pour toi. Même nos danses, nos louanges, nos paroles de reconnaissance, Seigneur, sont pour toi et pour toi seul. Parce que tu es digne, parce que tu es digne. Le seul qui a été trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux, alors que la terre entière et les cieux avaient fait silence ce jour-là. Tu es le seul qui soit venu, oh Dieu, pour nous sortir du gouffre dans lequel nous nous trouvions autrefois. Et c'est par toi, Seigneur, oh Dieu, que nous avons trouvé les chemins du bonheur. Merci, Jésus. À toi toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Jésus est-il digne de notre louange? Jésus est-il digne de nos acclamations? Jésus est-il digne de nos cris de joie? Il en est digne. Il en est digne. À lui seul soit toute la gloire. Amen. Shalom, shalom. Que le nom du Seigneur soit béni. Je bénis son nom pour sa présence au milieu de nous. Et bénisse son nom pour sa grâce qui coule encore ce matin en cet endroit et partout où les hommes se sont réunis pour les célébrer, il est là. Il est présent au milieu d'eux. Nous disons ce matin merci à notre père et berger, le frère Maurice Mouéou, de là où il nous suit, nous les saluons. Est-ce que vous pouvez les saluer là où il est? Que le Seigneur se souvienne de lui. Nous voulons lui dire merci pour cette marque de confiance qu'il a réitérée à notre modeste personne pour que nous parlions de la part du Seigneur au peuple de Dieu sous sa responsabilité. Nous croyons que ce matin, Dieu est au milieu de nous et sa présence suffit pour nous redonner la vie et la joie. Amen. Est-ce que tu peux maintenant regarder ton voisin et lui dire, je suis content de t'avoir pour voisin ce matin. Si c'est le même voisin, ce n'est pas un problème. Et si tu as changé de voisin, dis à ce voisin, je suis content que tu sois mon voisin ce matin. Et si je suis béni, sache que la bénédiction qui est à moi est dans le voisinage. À tout moment, elle peut traverser pour arriver là où tu es. Et si c'est toi qui es béni, je ne m'inquiète absolument de rien, parce que la bénédiction est dans les voisinages. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Ebenezer, la puissance du cri de l'adopté. Ebenezer, c'est cela notre thème, ou notre sous-thème, parce que nous sommes venus de très loin, c'est depuis 2020 que nous sommes sur cette étude, et Dieu nous fait beaucoup de bien. Ebenezer, la puissance du cri de l'adopté et les sous-thèmes que nous avons commencé à analyser depuis un certain temps, nous l'avons intitulé « Être agréable à Dieu ». Être agréable à Dieu. Nous ferons trois lectures ce matin. Je vais lire dans 1 Samuel chapitre 2, du verset 21 au verset 26. Ensuite, nous lirons Actes chapitre 10, 34 et 35. Actes chapitre 10, 34 et 35, et nous terminerons par Matthieu chapitre 5, les versets 6. D'autres textes pourront suivre au fur et à mesure que nous allons évoluer. Je disais 1 Samuel chapitre 2, du verset 21 au verset 26, Actes chapitre 10, les versets 34 et les versets 35, Matthieu chapitre 5, les versets 6. Si nous avons trouvé, nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta trois fils et deux filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, « Pourquoi faites-vous de telles choses ? Car j'apprends de tous les peuples vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. » 26. Le jeune Samuel continuait à grandir, et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Actes chapitre 10, les versets 34 et les versets 35. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception des personnes, mais qu'en toute nation, celui qui les craint et qui pratique la justice, lui est agréable. » Matthieu chapitre 5, le verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Tu restes derrière ta parole pour l'accomplir. Tu nous l'as envoyée afin que nous ayons la vie par elle. Et c'est toi-même qui es la parole, Seigneur. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est ce que nous voulons entendre ce matin, Seigneur. Une parole qui donne vie à nos âmes. Une parole qui nous redresse. et une parole qui nous montre la voie à suivre. Alors que nous marchons avec toi, bénis ces temps et conduis cette parole dans le cœur de ton peuple. Tu connais les vrais besoins de chaque âme ce matin. Nous ne voulons pas nous laisser tromper par notre prétention ou notre façon de voir les choses, mais nous voulons que ta parole nous donne ce dont nous avons réellement besoin. Tiens-nous ta main, au nom de Jésus. Amen. Nous accueillons la parole de Dieu par des applaudissements et par des cris de joie. Nous célébrons Dieu à cause de sa parole. Alléluia. Ebenezer, la puissance du cri de l'adopté, c'est l'un des points de cette étude que nous avons démarrée depuis le 5 janvier 2020. Et si vous nous avez trouvé au milieu, parce que sans doute l'Église s'est rajeunie à chaque fois. Certainement, il y a des gens qui n'ont jamais été là depuis le début de cette étude. Ebenezer, la puissance du cri de l'adopté, ne parle que de Samuel. Parce que c'est de lui qu'il est question ici. Quand vous lisez dans 1 Samuel chapitre 7, alors que Israël est dans une situation difficile, ils sont sous la domination des Philistins, et même l'arche est déjà prise par ces Philistins. Et c'est là finalement qu'Israël va subir des moments difficiles de domination de la part de cette nation. L'arche a fait son chemin retour elle-même. Elle est rentrée en Israël sans l'aide d'aucune main. L'arche est revenue. Et alors que Israël va s'élever autour de Samuel pour lui demander l'intervention de Dieu, parce que Samuel était en train de prêcher à Israël pour qu'il revienne à Dieu, les Philistins apprennent que Israël est en train de se réunir pour se relever à nouveau. Et c'est là finalement que tout Israël va crier vers Samuel pour lui dire « Ne cesse point de crier pour nous ». Et la Bible dit, Samuel a crié vers l'Éternel, et l'Éternel a répondu à sa prière, et la victoire a été du côté d'Israël. C'est de là que nous avons finalement tiré ce sous-thème en parlant du cri, la puissance du cri de l'adopté. Mais cet adopté qui est appelé à crier pour les autres, cet adopté qui est appelé à intercéder pour les autres, a tout un parcours à considérer. Il a un processus de maturation à observer dans sa vie. Il est né un jour et il est envoyé, déposé dans la maison de Dieu à Silo. Et c'est là qu'il a commencé à grandir, c'est là qu'il a commencé à franchir certaines étapes de sa vie pour être celui dont on demande l'intervention au chapitre 7. Ce n'est pas du jour au lendemain que notre cri devient un cri sollicité par tout le monde si nous n'avons pas respecté certaines étapes. C'est cela que nous avons parlé du processus de maturation d'un adopté enfant vers un adopté mature. Et Samuel est entré dans la maison de Dieu tout jeune. La Bible dit que c'est lorsqu'il a été sévré, autour de 3 ans, 4 ans, 5 ans, qu'il sera déposé là à Silo dans la maison de Dieu. Et c'est là qu'il va faire toutes ses preuves pour qu'il devienne ce qu'il était devenu par la suite. C'est là que nous avons compris qu'on peut entrer, dans la maison de Dieu faible. On peut entrer dans la maison de Dieu diminué. On peut entrer dans la maison de Dieu enfant et en sortir une bénédiction pour toute une nation, une bénédiction même pour des générations. Alléluia. C'est pourquoi nous ne négligeons pas les gens qui viennent dans la maison de Dieu. Peu importe ta façon d'entrer ici, Dieu a certainement une histoire avec toi. L'histoire de Samuel nous enseigne donc comment un homme consacré à Dieu peut-il briller sur la terre. Nous savons comment il est né. Sa mère a fait cette demande dans la prière à Dieu pour dire « Si tu me donnes un enfant mâle, je le consacrerai à toi ». Tous les jours de sa vie seront confié, consacré à l'Éternel, il sera totalement à toi. Et l'histoire de cet homme nous enseigne comment un homme consacré à Dieu peut-il briller sur la terre. Et nous avons essayé d'expliquer c'est quoi la consécration. La consécration, c'est le fait d'être mis à part, séparé pour quelque chose. Consacré pour Dieu, séparé pour ne servir que Dieu et Dieu seul. Mais celui qui est appelé à briller, Il doit aussi passer par les étapes, comme nous avons dit. Et parmi ces étapes, nous avons là cette quatrième marche dans la pyramide des maturations, pour ceux qui sont réguliers, pour ceux qui savent d'où nous venons. Nous sommes dans cette quatrième étape de sa marche où il est dit qu'il faut être agréable à Dieu et aux hommes. Et selon l'apôtre Pierre, il nous a donné deux ingrédients importants de celui qui veut être, ou de cet homme qui peut être agréable à Dieu. Et c'est là qu'il a parlé dans Actes chapitre 10, 34 et 35 que nous avons lu, que Dieu ne fait point exception des personnes, mais qu'en toute nation, celui qui les craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Autrement dit, un homme qui est agréable à Dieu, c'est un homme qui marche dans la crainte de Dieu. Vous ne pouvez pas plaire à Dieu si vous ne marchez pas dans la crainte de Dieu. Et nous avons dit également que la crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu. Un enfant de Dieu n'a pas peur de Dieu, mais il a la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le respect que nous devons donner à Dieu. La crainte de Dieu, c'est l'honneur que nous devons donner à Dieu. Vous voyez. La crainte de Dieu, c'est l'honneur que nous devons manifester à notre Dieu. Et la crainte de Dieu, nous avons dit, c'est la haine du mal. La crainte de Dieu, c'est le fait pour un enfant de Dieu de tourner le dos au mal. Nous ne pouvons pas prétendre aimer Dieu. Nous ne pouvons pas prétendre marcher avec Dieu et être à l'aise avec le mal. Être à l'aise en faisant du mal aux autres. Un enfant de Dieu a la haine du mal. Il ne supporte pas le mal. Il ne supporte pas le fait de faire du mal aux autres. Il tourne le dos au mal. Et lorsqu'il tourne le dos au mal, la Bible dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. C'est là que Dieu lui ouvre la porte de la sagesse et c'est là qu'il peut entrer et marcher avec le Seigneur. Être agréable à Dieu, non seulement que c'est la crainte de Dieu. Nous avons également vu cette réponse de Pierre où il parle de la pratique de la justice. Et c'est là que nous sommes depuis quelques semaines ou quelques mois. La pratique de la justice, celui qui est agréable à Dieu, c'est celui qui pratique aussi la justice. Samuel est né dans un contexte sociopolitique dominé par une époque qualifiée d'anarchie en Israël. Quand vous lisez Juges chapitre 21, le verset 25, la Bible décrit le temps des juges comme un temps où chacun faisait ce que lui semblait bon. Or, dans un pays, lorsque tout le monde fait ce qui lui semble bon, il n'y a plus d'ordre. C'est l'anarchie qui s'installe. Et Samuel est né pendant cette période qualifiée d'anarchie en Israël. Mais la question qu'on doit se poser ici est celle de savoir pourquoi Dieu suscite Samuel dans cette période-là. Pourquoi Samuel est né pendant cette période d'anarchie? Pourquoi Dieu consacre Samuel pendant cette période? La réponse est toute simple, frères et sœurs. C'est que dans un pays qui vit dans l'anarchie, sa solution n'est pas que par les hommes consacrés à Dieu. La solution pour un pays qui marche dans l'anarchie, où il y a le désordre à tout moment, où chacun peut garer là où il veut, où chacun peut ouvrir son petit ligablo là où il veut, où chacun peut jeter sa caillasse là où il veut, où chacun peut mettre son camion remorque partout où il veut. On achète des remorques, mais on n'achète pas des garages. Tout comme on ne loue pas des garages. Les garages, ce sont les artères publiques. Et puis, vous allez voir ces gens, quand ils viennent, ils savent que mon véhicule n'est pas en panne. Mais, tiens, ma tite, mon abacouin. Pour dire que non, j'ai une panne. En réalité, il n'y a pas de panne. Chacun fait ce que bon lui semble. Gloire à Dieu pour tout ce que notre pays est en train de prendre comme initiative. Parce que trop, c'est trop. Les enfants de Dieu ne doivent pas s'accommoder avec les désordres et l'anarchie. Je suis allé prêcher à Kinshasa, la parole éternelle, Founa. J'ai prêché au premier culte, c'était calme et tout ça. Le pasteur m'a dit, attends, tu n'as pas encore vu. Au premier culte, tu as prêché calmement sans problème. Au deuxième culte, tu ne prêcheras pas bien. Pourquoi? dans une même parcelle deux églises. Ce n'est pas que dans une même avenue, dans une même parcelle. Où est l'ordre? Où est l'ordre? Mais le jour où on prendra des décisions, on doit fermer certaines églises et vous allez voir les intercessions dans les églises. Les gens vont gêner, vont prier. Non, Seigneur, on ne touche pas, mais ouais, on ne touche pas à l'église. Mais on ne touche pas à l'église qui fonctionne selon les normes, qui fonctionne selon l'ordre établi par Dieu. Dieu n'est pas dans le désordre. La Bible dit notre Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Il n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas dans l'anarchie où les gens construisent même sur les tombeaux. Les gens construisent sur les cimetières. Vous allez et puis vous dites, pasteur, tu as peur de quoi? Tu vois là-bas, on a sorti 6. C'est très long comme ça. 6, c'est quoi? Squelette. La malédiction au Congo est en train d'être recyclée entre les Congolais. Ça se recycle entre nous. C'est pourquoi nous, pas toujours, nous ne savons pas aller de l'avant. Parce que nous sommes dans une anarchie qui ne dit plus son mot. Et Samuel est né pendant cette période. C'est de la même façon que vous et moi également sommes enfants de Dieu pendant cette période. Nous ne sommes pas enfants de Dieu pour rien. Dieu ne nous a pas suscité au Congo pour rien. Pendant cette période d'anarchie, c'est pour que l'ordre vienne de nous. C'est pour que l'organisation passe par nous. Mais le Congo ne va pas bien. Pourquoi? Parce que ceux qui se font passer pour des chrétiens ne le sont pas en réalité. Ceux qui se font passer pour des enfants de Dieu ne le sont pas en réalité. Pourquoi? Parce que si nous avons compris le pourquoi de notre présence dans ces pays, nous n'agirons pas dans l'anarchie. Nous ne ferons pas certaines choses que nous faisons aisément. Où est la pratique de la justice dans la vie des enfants de Dieu? Dieu, par Samuel, est venu fonder une nouvelle société. Une nouvelle société qui doit fonctionner avec les valeurs du royaume des cieux. Non pas avec le royaume de la terre, parce que la terre a été compromise. Le péché a fait sombrer la terre dans le chaos. Mais Dieu a suscité Samuel pour que le pays retrouve son fonctionnement normal. Et Dieu a suscité les enfants de Dieu que nous sommes pour que nos familles fonctionnent de façon normale, pour que nos institutions fonctionnent d'une manière normale. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous nous accommodons plus facilement dans l'injustice et dans toutes sortes de dépravations. Pour Dieu, la solution pour un pays qui vit dans l'anarchie passe par les hommes consacrés à lui. Est-ce que tu sais que tu es une solution le jour où tu es devenu une solution, le jour où tu as donné ta vie à Jésus? Tu es devenu une solution pour ta famille. Tu es devenu une solution pour ton entreprise. Tu es devenu une solution pour cette nation. Mais si la solution alors ne joue pas convenablement son rôle, pourquoi alors vous êtes solution? Pourquoi avons-nous donné nos vies à Jésus si nous devons continuer à vivre dans les péchés et dans les mâles? Pourquoi nous devons continuer à vivre avec toutes sortes de pratiques d'injustice? Samuel est déposé à Silo. C'est là, au cœur même de la corruption morale et spirituelle. C'est là qu'il a été déposé. Aucun parent responsable, vrai, ne tolérera que son enfant soit déposé à Silo, là où on a déjà toutes sortes d'informations, que ses enfants l'accouchent avec les femmes qui viennent au temple, à la maison de Dieu, et que les enfants de Samuel ont même fabriqué une fourchette à trois dents pour piquer la viande. Ils n'enlèvent pas d'abord la part de Dieu, ils piquent les gros morceaux, ils s'en foutent des lois de Dieu. Mais c'est là, finalement, que Dieu, que Anne va dire, je vais déposer mon enfant là. On verra si la puissance de Dieu sera absorbée par la dépravation de tout ce qui se passe à Silo. Frères et sœurs, nous avons la possibilité d'influencer notre société. Samuel n'a pas été influencé par le comportement des fils d'Élie. Qu'est-ce qui fait que nous soyons influencés par le mal autour de nous? Au point que les gens disent, pasteur, tu ne sais pas le fonctionnement de notre bureau. Tu ne sais pas le fonctionnement de notre service. Tu ne sais pas, je suis pris en étau. J'ai subi parce qu'en amont, on a accepté. En aval, on a accepté. Moi, je ne suis qu'au milieu. Il y a possibilité que tu fasses la différence. Il y a possibilité que tu influences le monde qui est autour de toi. C'était un petit, Samuel, là. Ce n'était pas un vieux, ce n'était pas un adulte, mais un enfant, mais qui n'a pas été détruit. Sa vie n'a pas été détruite parce que Dieu tient à ceux qui l'honorent. Dieu tient à ceux qui lui sont favorables. Dieu tient à ceux qui marchent avec lui. C'est possible, frères et sœurs. Ne nous cachons pas derrière de certaines déclarations pour dire non, c'est un système. Si c'est un système, tout système peut être changé. Il n'y a pas de système qui reste figé. Aujourd'hui, ça me faisait rire. Aujourd'hui, quelqu'un a son talkie-walkie, mais comme il bombe. C'était un système de communication. Et puis j'entends les gens dire, il faut laisser les talkie-walkie très loin, il faut même les enterrer. Mais si Dieu veut le tuer, avec nos portables ici, à la minute, tic, et puis... Frères, sœurs, Dieu nous veut des enfants de Dieu véritables, des serviteurs qui peuvent changer notre pays et notre nation. Il est déposé à Silo, au cœur même de la compromission morale et spirituelle, avec l'objectif de ramener l'ordre et le respect pour Dieu et son sacerdoce. C'est cela notre responsabilité. Ça fait très mal. Tous nous décrions le comportement des conducteurs sur la route, taximètre tout comme motards. Mais ceux qui ont 4-5 motos, ils sont ici. Si l'ordre peut commencer par nous, commencez par d'abord appeler tes 5 motards et leur donner des instructions. Voilà comment on conduit. On n'insulte pas les gens sur la route. On ne parle pas mal aux gens que vous ne connaissez pas. C'est pourquoi la malédiction est en train d'être recyclée entre nous. L'ordre doit venir des enfants de Dieu que nous sommes. La justice qui élève une nation, ce n'est pas d'abord la justice en tant que pouvoir organisé par l'État, mais c'est la justice qui vient de chaque cœur. C'est là que nous avons défini la justice comme être ce qu'on doit être et donner à chacun ce qui lui est dû. Si nous sommes ce que nous sommes, ce que nous devons réellement être, ce pays de choléra. Si nous donnons à chacun ce qui lui est dit, ce pays, 5 ans c'est trop, 10 ans c'est beaucoup, il y aura des changements ici. Pourquoi nous n'avançons pas? C'est parce que l'injustice est dans nos cœurs, alors que nous écoutons la parole de Dieu, alors que nous venons dans la maison de Dieu, alors que nous dansons, nous louons, nous célébrons Dieu. Mais l'injustice a érigé domicile dans nos cœurs, dans nos vies. De sorte qu'aujourd'hui, le mal est devenu synonyme du bien, et le bien est devenu synonyme du mal, et celui qui connaît le bien a honte de faire le bien. Et on se plaît à faire le mal. Où est la justice dans nos cœurs? Est-ce que papa, tu es ce que tu devais réellement être pour ta femme? Femme, tu es réellement ce que tu dois être pour ton mari? À l'église, est-ce que pasteur, tu es réellement ce que tu dois être pour les fidèles de Dieu qui sont devant toi? Fidèle, est-ce que vous êtes transparent envers votre pasteur, tel que vous le décriez, tel que vous vous présentez devant lui? Il y a des hypocrisies à tous les niveaux, frères, sœurs. La marche chrétienne n'est pas une marche de l'hypocrisie. Nous devons être sincères les uns vis-à-vis des autres. Si je te souris, mon sourire doit être sincère. Si je parle bien avec toi, je dois être sincère avec toi. Pas d'hypocrisie dans le cœur. Nous ne sommes pas ce que nous devons réellement être les uns vis-à-vis des autres. On se roule les uns les autres, on se fait des coups bas les uns les autres. On a trouvé plaisir à se faire du mal. Mais pourtant on s'appelle frère, sœur, on s'appelle enfant de Dieu. On s'appelle serviteur de Dieu. Être comme on doit être et donner à chacun ce qui lui est dit. Pourquoi Pierre donne ces deux ingrédients? Il n'est pas allé à 3, 4. Il ne donne que ces deux éléments. Vous voulez être agréable à Dieu. Vous voulez plaire à Dieu. Craignez Dieu. Et marchez dans la justice. Pratiquez la justice. Il n'a pas parlé de 3 choses. Pas 4. 2 seulement. Mais nous sommes incapables d'appliquer ces 2 choses dans notre vie. Mais nous voulons quand même mener une vie chrétienne. Nous nous attendons quand même au ciel. Nous nous attendons quand même à ce que Dieu nous visite un jour. Mais Dieu reste, je le dis toujours, Dieu reste un Dieu de principes. Il fonctionne dans ses principes. Restez dans les principes de Dieu, vous le verrez. Pierre ne dit pas ces choses en l'air. Il a été un bon élève. Il a appris de son maître Jésus. Et c'est ce que nous avons lu dans Matthieu chapitre 5, le verset 6. Il s'agit là de l'introduction au sermon sur la montagne que nous appelons communément les béatitudes. Chapitre 5, chapitre 6, le chapitre 7. Et là, Jésus introduit son sermon. On est encore dans l'introduction lorsqu'il dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » C'est de là que Pierre a puisé cet élément. Il dit, mon maître me l'avait appris, que cet élément ici est crucial. Si je veux être agréable à Dieu, je dois être un homme qui a faim et soif de la justice. Et lui aussi, à son tour, il reproduit là devant Corneille. Jésus, dans son sermon sur la montagne, dans le nouveau code de conduite du citoyen du royaume qu'il est venu établir sur la terre, il donne un nouveau code de conduite. Et c'est ce nouveau code de conduite qui doit diriger chaque enfant de Dieu que nous sommes. Nous sommes devenus enfants de Dieu et Jésus a fixé des règles. Il a fixé la manière de se comporter, de se conduire dans la marche chrétienne. Parce que nous ne faisons plus partie du monde, quoique étant encore dans le monde, mais nous sommes citoyens du royaume des cieux. Et les citoyens du royaume des cieux ne vivent pas comme ceux du monde. Et Jésus est venu donner le nouveau code de conduite. C'est pourquoi cet enseignement ne s'adresse pas aux païens, mais il concerne les enfants de Dieu. Parce que nous devons corriger certaines choses en interne. Nous devons revoir notre façon de faire les choses en interne. Jésus est venu donner un nouveau code de conduite du citoyen du royaume qu'il est venu établir sur la terre. Il dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ce matin, poursuivons cet enseignement en nous posant la question suivante. Parce que jusque-là, c'était juste un rappel. Ce matin, ne vous en faites pas, on va terminer. Ce matin, poursuivons cet enseignement en nous posant la question suivante. Quelle est la récompense de l'homme qui pratique la justice? Quelle est la récompense de l'homme ou de la femme qui pratique la justice? En d'autres termes, j'ai intitulé ce point comme la récompense du pratiquant de la justice. C'est Jésus qui dit ici, dans son sermon, il introduit en disant, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront comment? Rassasiés. C'est Jésus qui parle ici, c'est pas n'importe qui, c'est lui-même qui parle. Et en analysant cette déclaration de Jésus, vous allez remarquer une chose. La phrase commence par « heureux », qui veut dire tout autrement dit, il parle du bonheur de l'homme. Et en analysant cette déclaration de Jésus, vous remarquerez que le bonheur n'est pas ce que l'homme doit chercher. Parce qu'il dit « heureux ». Ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront comment? Rassasiés. C'est celui qui est rassasié qui est dans le bonheur. C'est celui qui est rassasié qui est dans la bénédiction. Mais Jésus ne dit pas ici que nous devons chercher le rassasiement. Jésus ne dit pas que nous devons chercher le bonheur. Mais ce dont un enfant de Dieu, un disciple de Jésus doit chercher, c'est la satisfaction de la justice. C'est pourquoi il dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Un homme qui a faim doit chercher à manger pour satisfaire sa faim. Un homme qui a soif doit chercher de l'eau à boire pour satisfaire sa soif, oui ou non? Il ne cherche pas le rassasiement, mais il cherche d'abord la satisfaction de son besoin. La justice doit être un besoin que nous devons absolument chercher à satisfaire. La justice doit être cette soif que nous devons ardemment chercher à satisfaire. Un homme qui a soif, même quand vous lui donnez un tonneau de lait, il te dira, ce n'est pas ça dont j'ai besoin. J'ai besoin de l'eau pour boire. Un homme qui est dans le désert et qui a soif, même quand vous lui présenterez un colis de diamants, il te dira, ce n'est pas ça que je veux. J'ai besoin de boire, j'ai besoin de l'eau, j'ai besoin de boire de l'eau. Ainsi la justice doit être, frères et sœurs, quelque chose qui ronge notre intérieur, quelque chose qui nous met mal à l'aise jusqu'à ce que nous l'exécutions, jusqu'à ce que nous la pratiquions les uns vis-à-vis des autres. Justice parents avec enfants, mari et femme, justice père et fils, justice patron et ouvrier, justice à tous les niveaux. Tant que je n'ai pas été juste vis-à-vis de mon frère, je suis malade. Tant que je n'ai pas été transparent vis-à-vis de ma femme, je suis malade. C'est pourquoi Jésus dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Le bonheur n'est pas ce que nous devons chercher. Ce que nous devons chercher, c'est comment satisfaire cette justice qui ronge notre cœur. Une fois que la justice est satisfaite, le rassasiement vient juste comme une récompense. C'est pourquoi Jésus le confirme. Lorsqu'il s'est même maintenant développé son sermon sur la montagne, nous sommes au chapitre 6, le verset 1er. Matthieu chapitre 6, le verset 1er. Matthieu chapitre 6, le verset 1er. Jésus dit quoi? Gardez-vous de faire quoi? De pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Vous voyez. Il parle de la manière d'agir des pharisiens qui pratiquaient une justice pour que les hommes les voient, pour que les hommes les récompensent. Mais Jésus prend cette illustration pour dire qu'il n'y a jamais eu de justice pratiquée par un homme sans que celui-ci ne soit récompensé par son Père qui est dans les ciel. Dieu récompense la justice d'un homme. Dieu récompense l'intégrité d'un serviteur. Dieu récompense l'honnêteté d'un enfant de Dieu. Dieu récompensera la pratique de la justice de tous ceux qui tournent leur regard vers lui. Il n'a jamais été indifférent, frères et sœurs. Il n'a jamais été indifférent. Quelle est la récompense de ceux qui cherchent à pratiquer la justice? Le Seigneur Jésus lui-même, il répond en disant, ils seront rassasiés. Alléluia. C'est formidable. Parce que Dieu reste derrière sa parole pour l'accomplir. Heureux, vous qui pratiquez la justice, parce que vous serez rassasiés. C'est vrai, vous pleurez aujourd'hui. C'est vrai, c'est avec mépris. Des fois qu'on vous traite parce que vous voulez être intègre, parce que vous voulez rester juste dans votre conduite, vous voulez garder votre relation impeccable avec Dieu, mais vous êtes devenu la rusée de tout le monde. Dieu dit, vous serez rassasiés. Vous serez rassasiés, non pas parce que les hommes auront pitié de vous, mais parce que vous avez un Père au ciel qui sait voir que vous l'avez honoré en public. Il ne va pas vous honorer en cachette, ça sera en public aussi. Vous ne l'avez pas déshonoré, mais il va vous honorer devant tout le monde. Il dit, ils seront rassasiés. Ils seront rassasiés. Je me suis posé la question, mais comment ces hommes seront-ils rassasiés, Seigneur? Ils seront rassasiés, oui, dans ces siècles ici et dans les siècles à venir, comme Pierre l'a dit. Mais j'ai réfléchi autour de cette question. Ils seront rassasiés, ça veut dire quoi au juste? Et c'est David qui me répond à cette question. Comment la justice peut rassasier un homme? Et là, nous sommes dans psaume 23 que beaucoup ont mal compris. Psaume 23, du 1er au 6e verset, la Bible dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des vers pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. » Il dit quoi? Verset 3. « Il restaure mon âme. » Ensuite, il fait quoi? « Il me conduit dans les sentiers de la justice. » Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que dans les sentiers de la justice, il est avec moi. Il me garde dans les sentiers de la justice. Il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Il continue, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Quand est-ce que quelqu'un est rassasié? C'est lorsqu'il mange. Quand est-ce qu'il mange? C'est lorsqu'on a dressé une table devant lui. Oh, formidable! Ils seront rassasiés. Pourquoi? Parce que Dieu va dresser une table. C'est Dieu qui va te dresser une table. Je ne sais pas ça prendra combien de temps, mais Dieu finira un jour par te dresser une table. Aujourd'hui, tu es la risée de tout le monde. Tu es humilié, tu es méprisé. Ce n'est pas un problème. Mais il y a ton père, il y a ton berger. L'Éternel est mon berger. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Ce que je dois faire pour le moment, c'est que je me laisse conduire dans les sentiers ministère de la justice. Je me laisse guider par lui. Je me laisse diriger par lui. Même quand ça ferait mal. Parce que marcher sur les sentiers de la justice n'est pas une marche facile. C'est une marche avec des pleurs. Mais la Bible me dit, ceux qui marchent en pleurant à l'aller, ils reviennent avec des chants d'allégresse. Parce que l'Éternel sait honorer ses enfants. L'Éternel sait honorer ses serviteurs. Frères, sœurs, pratiquons la justice. Pratiquons la justice à tous les niveaux. Soyons transparents les uns vis-à-vis des autres. Soyons intègres les uns vis-à-vis des autres. Soyons honnêtes les uns vis-à-vis des autres. Pas de cacheterie, pas de coups bas les uns vis-à-vis des autres. Ce n'est pas en vain que Dieu nous conduit dans les sentiers de la justice. Pourquoi nous nous fatiguons souvent après avoir travaillé des années durant, mais on n'est pas toujours heureux? C'est parce que nous avons renversé les choses. Nous avons beaucoup plus cherché le bonheur. Nous avons beaucoup plus cherché la bénédiction. Mais nous avons lu ensemble avec vous. Ce n'est pas le bonheur qu'un homme doit chercher. Il cherche la justice. Et le bonheur est une récompense. Un homme qui prie pour la bénédiction, il n'a pas compris la vie chrétienne. Nous ne cherchons pas la bénédiction. Pourquoi? Regarde ce que David dit encore. Non seulement que l'Éternel dresse une table, il dit quoi? Oui, le bonheur et la grâce feront quoi? M'accompagneront tous les jours de ma vie. Ça veut dire que Dieu a prévu à ce que celui qui marche dans les sentiers de la justice, que le bonheur ne soit plus une requête, que la bénédiction ne soit plus une requête, mais quelque chose qui va t'accompagner tous les jours de ta vie. Marche dans la justice et tu verras le bonheur accompagner ta vie. Marche dans la justice et Dieu défendra ta situation. Tu n'auras pas beaucoup d'argent, c'est vrai, mais les maladies vont s'éloigner de ta maison. Tu n'auras pas tout ce dont les gens ont besoin, mais tu verras toi-même les gens courir tout autour de toi pour te dire, Dieu m'a mis à cœur de te donner ça, Dieu m'a mis à cœur de te faire ceci, de te faire cela. Marche dans l'intégrité avec Dieu. Nous nous fatiguons parce que nous cherchons le bonheur. Nous nous fatiguons, nous sortons très tôt, nous rentrons très tard, nous sommes tout le temps en voyage. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler, il faut travailler. Mais ce n'est pas le bonheur que nous devons chercher dans notre vie. Celui qui cherche le bonheur, il a perdu son temps pour rien. Il a perdu son temps pour rien. Ne perds pas ton temps à chercher le bonheur ou la bénédiction, car le bon berger l'a déjà rendu disponible sur les sentiers de la justice. Il l'a rendu disponible sur les sentiers de la justice. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes. Il ne s'agite pas quand il y a des soucis. Il ne s'agite pas quand il y a des problèmes. Parce qu'il a confiance en Dieu. Il sait que j'ai bâti une relation stable. Il sait que je marche avec ce Dieu-là. Ma relation, c'est la chose sur laquelle je travaille jour et nuit. Que cette relation se maintienne pour le reste. Même quand je dormirai affamé, je sais qu'à la dernière minute, il dressera une table devant moi. Il dressera une table devant moi. Il dressera une table devant moi. Marche seulement sur les sentiers de la justice. Ne murmure pas. Ne dis pas, Seigneur, ce sentier est difficile. Ce chemin est compliqué. La table est tout près de toi. La table n'est pas très loin de toi. Dans Proverbe 11, le verset 18. Proverbe 11, le verset 18, la Bible dit, le méchant fait un gain trompeur, mais celui qui sème la justice a un salaire véritable. Vous entendez? Celui qui sème la justice a un salaire véritable. N'est-ce pas là la parole de Dieu? Pensez-vous vraiment que Dieu soit un homme pour mentir? Non, ce qu'il dit arrivera. Mais trop souvent, nous avons confiance à l'injustice pour nous nourrir, plutôt qu'à la justice pour nous nourrir. Nous avons confiance à gagner notre vie de manière injuste. On s'est dit, si je ne fais pas ça, les enfants vont rester à la maison. D'ici là même, on a commencé à envoyer des communiqués, des rappels pour payer les frais scolaires. Si je ne prends pas cette histoire, si je n'ajoute pas quelque chose sur le montant de la facture initiale, ça va être compliqué. Ce chantier-là sera bloqué. Si ça doit être bloqué, que ça soit bloqué. Mais je ne veux pas ajouter des briques qui vont crier injustice. Je ne vais pas ajouter des briques ou des carreaux qui vont crier injustice. Je fais confiance à la justice de Dieu. Je fais confiance à la justice de Dieu. Je fais confiance à la justice de Dieu. Celui qui sème la justice a un salaire véritable. Personne ne va chercher le salaire au début du travail. Aujourd'hui, on vous engage et puis vous posez la question. Pour un salaire, nous avons Ernie. Non. Il faut travailler. Et le salaire viendra à l'après. Ça veut dire quoi? Sème la justice et la récompense viendra après. Mais nous, qu'est-ce que nous cherchons? Nous tournons le dos à la justice, nous cherchons le bonheur. Nous cherchons la bénédiction. Nous cherchons l'argent. Dans Exode, dans Proverbes chapitre 3, le verset 33, la Bible dit, la malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. Mais il bénit la demeure des justes. Alléluia. Il bénit la demeure des justes. Ma prière ce matin, que vous tous qui êtes justes, que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse vos demeures. Restez dans cette intégrité. Restez justes. Ne changez pas. Restez constants dans votre position. Et la demeure, votre demeure sera bénie. Dans Proverbe 12, le verset 21, la Bible dit, aucun malheur n'arrive au juste. Wow. Aucun malheur n'arrive au juste. C'est la parole de Dieu, oui ou non? Aucun malheur. Et quand la Bible dit aucun, c'est vraiment aucun. Aucun malheur. C'est pourquoi la Bible dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Qui ne sera pas atteint? C'est le juste qui ne sera pas atteint. Ce n'est pas l'injuste qui sera atteint. Non! Dieu veille sur ceux qui lui sont favorables. Dieu veille sur la vie des justes. Dieu veille sur le témoignage des justes. Lorsque les gens ne sont plus dans la justice, ils sombrent dans l'injustice. Et c'est l'injustice qui engendre l'égoïsme. Et nous sommes dans une société aujourd'hui rongée par l'égoïsme. Chacun cherche à tout prix à ce que tout ce qu'il reçoit ne soit que pour lui et pour lui seul. Nous ne voulons plus partager, nous ne voulons plus regarder aux autres. Tout ce que nous voulons, c'est que moi je me retrouve. Tant que je me suis retrouvé, c'est que la vie va mieux. Mais pourtant, dans ce que nous avons amassé, il y a également la part de l'autre là-dedans. C'est pourquoi on est toujours malheureux. On est toujours malheureux. Vous avez amassé, vous avez pris beaucoup de choses, mais votre joie n'a jamais été comblée. Votre cœur n'a jamais été comblé. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas dans les richesses injustes. Dieu n'est pas dans tout ce qu'on obtient à gauche et à droite de façon malhonnête. Dieu aime ceux qui marchent dans la justice. L'égoïsme a pris place dans nos cœurs. Et l'amour du prochain a disparu aujourd'hui. Nous lisons la parole de Dieu, mais nous vivons loin des principes de Dieu, frères et sœurs. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Le Congo a tous les atouts nécessaires pour décoller. Non seulement qu'il a des richesses minières, ou les eaux, ou la forêt, mais le Congo a aussi une population chrétienne. C'est la meilleure des richesses qu'elle a. Si cette population mettait en pratique la parole de Dieu, les pays décolleraient à la minute. Mais pourquoi les pays pataugent? C'est parce que ceux qui se disent être chrétiens ne le sont que de forme. Le fond, c'est autre chose. Soyons des enfants de Dieu, transformés. Pratiquons la justice, peu importe les prix que cela peut nous coûter. Là où règne l'injustice, l'amour du prochain disparaît totalement. Frères et sœurs, travaillons pour que la justice soit notre force. Baissons nos têtes dans la prière. Vous avez été touché par la parole de Dieu. Levez-vous, s'il vous plaît. N'attendez pas. Nous n'avons pas assez de temps. Vous avez besoin de vous réconcilier avec Dieu. Et même vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus. Là où tu es, lève-toi aussi. Mets de l'ordre dans ta vie. Tu as été responsable de plusieurs mauvaises choses et ce matin, le Seigneur t'a interpellé. Ne veux-tu pas t'élever là où tu es? Merci à vous qui vous levez. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est dur pour vous de vivre, de pratiquer la justice, mais faites confiance à Dieu. Faites confiance à la parole de Dieu. Dieu t'a parlé ce matin, tu as été touché d'une manière ou d'une autre. Reviens, reviens à ce Dieu-là. Alléluia. J'ai soif de ta présence, divin, chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferai-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi.
Chaque jour,
chaque
que cela soit ta prière,
à chaque heure,
que cela soit le désir de ton cœur. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seul, je n'arriverai pas. Seul, je ne pourrai pas. Veux-tu élever la voix et parler au Seigneur? Veux-tu crier vers lui et implorer sa grâce? Tu as été injuste dans tes voies et pourtant tu es enfant de Dieu. Tu es serviteur de Dieu. Tu marches avec le Seigneur. Tu te dis enfant de Dieu, mais quelle est ta vie? Où est la pratique de la justice? Mais tu désires quand même être agréable à Dieu. Ne veux-tu pas revenir à lui ce matin? Parle-lui maintenant. Parle-lui maintenant. Élève ta voix, parle-lui. Élève ta voix, parle maintenant au Seigneur. Élève ta voix, dis-lui, Seigneur, je reviens à toi. Aide-moi à pratiquer la justice. Aide-moi à être ce que je dois réellement être. Aide-moi à donner à chacun si je dois donner à chacun, que je donne à chacun ce qui lui est dû. Aide-moi, Seigneur, à être honnête, intègre avec toi. Ça ne sert à rien de courir après la bénédiction, après le bonheur, parce que le bonheur n'est qu'une récompense de celui qui marche dans la justice, de celui qui a faim et soif de la justice. Tu seras rassasié. Dieu est juste, Dieu est fidèle à sa parole. Ça sera dur, ça sera compliqué, mais il tient à ce que tu marches avec lui, que tu marches dans l'honnêteté, que tu marches dans l'intégrité. Élève ta voix, parle au Seigneur. Élève ta voix, parle au Seigneur. Oh Jésus, merci. Oh Jésus, merci. Nous avons nos mains levées. Je vais prier pour vous. Et si vous avez besoin de parler avec quelqu'un, les conseillers seront là, ils vous attendront à la fin. Sinon, le mardi, nous serons au bureau pour vous recevoir aussi. Levez vos mains, je vais prier pour vous. Seigneur, ta parole est vraie. C'est toi qui as promis, qui a dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ce n'est pas une parole en l'air, Seigneur. Nous vivons dans un pays rongé par l'anarchie. Mais pourtant, tu nous as suscité comme ceux qui doivent apporter les changements. Parce que nous sommes lumière du monde et celle de la terre. Nous ne voulons pas perdre notre saveur, Seigneur, alors que nous sommes déjà dans ce monde corrompu. Notre rôle, Seigneur, est d'influencer ce monde. Mais comment allons-nous influencer si nous ne pratiquons pas la justice? Si nous ne sommes pas sincères envers nous-mêmes et envers les autres, et surtout envers toi, ô Dieu. Pardonne ceux qui ont besoin d'être pardonnés. Il y en a qui y ont accepté, Seigneur, de donner leur vie. Désormais que tu sois leur sauveur et Seigneur, alors Seigneur, pardonne-les également. Accueille-les dans ta maison. Seigneur, nous ne voulons pas vivre une vie chrétienne de façade, mais nous voulons réellement être ceux qui doivent susciter le développement et le progrès dans ces pays. Bénis chacun de nous. Ça sera difficile, je le sais. Mais Seigneur, ceux qui obéissent à ta parole ne sont jamais dans la confusion. Bénis ta parole dans nos cœurs et continue à agir dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Baissez vos mains. Seigneur, bénis à cette terre, ces dîmes, ces offrandes, ces dons volontaires et ces libéralités que nous t'apportons. Merci Seigneur, ô Dieu, de bénir tous ces hommes et les femmes, en les faisant qu'ils ne s'appauvrissent pas, mais au contraire, Seigneur, qu'ils vivent la bénédiction, le bonheur de Dieu qui les accompagne. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.